France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, coup de projecteur sur la France d'aujourd'hui, celle des plateformes logistiques qui ont remplacé les usines et où l'on se fait livrer à peu près tout ce dont on a besoin via Amazon ou Le Bon Coin. Une France dans laquelle le monde agricole s'est réduit comme peau de chagrin, mais où les habitants rêvent toujours d'une maison avec jardin. Une France des ronds-points et des hypermarchés, où les prix de l'immobilier donnent souvent le « là ». Une France dans laquelle on déménage plus qu'avant, surtout en direction de la mer. Une France où le succès de la piscine individuelle ne se dément pas, où le barbecue est devenu une institution et où l'huile d'olive a gagné du terrain. Une France où les parcs d'attractions attirent de plus en plus, au point que dans le Loir-et-Cher, il y a plus de monde désormais pour saluer les pandas du zoo de Beauval que pour aller visiter le château de Chambord. Une France de l'assiette mondialisée où l'on raffole des sushis, des kebabs, des burgers, des tacos. Tout cela fait un peu inventaire à la Prévert, mais c'est ce dont il est question dans le livre de nos deux invités. La France sous nos yeux, signé Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli aux éditions du Seuil. Ils sont là tous les deux. Alors si vous trouvez vous aussi que la France a changé, que ce soit pour ses paysages, ses transports, ses logements, son industrie, ses loisirs, n'hésitez pas à nous appeler. Vous allez pouvoir discuter avec nos deux invités.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Jérôme Fourquet.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du département opinion de l'IFOP, auteur d'un précédent livre qui avait fait date, c'est l'archipel français, déjà aux éditions du Seuil. Bonsoir Jean-Laurent Casselli.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'Express et chez Slate.fr, essayiste, spécialiste des modes de vie. Vous signez donc ensemble ce livre, La France sous nos yeux. C'est un livre très riche que vous signez, riche avec plein de tableaux, de cartes, de références géographiques, sociologiques. C'est très drôle aussi par moments. Quand vous parlez de Biarritz, Nouvelle-Californie française à la place de la Côte d'Azur, quand vous parlez de la gentrification rurale à propos du Perche, de la brooklynisation de Pantin dans la banlieue parisienne. Alors, je voudrais juste peut-être qu'on commence sur l'attirance des territoires, parce que vous avez utilisé des sources d'informations, une façon de travailler qui peut paraître peut-être un petit peu différente. Jérôme Fourquet, vous vous êtes servi d'Instagram, vous vous êtes servi des pages Wikipédia. Expliquez-nous comment vous avez travaillé.
Alors nous avons eu à cœur de mobiliser différentes sources documentaires, à la fois parfois des sondages, puisque je travaille à l'IFOP, mais également des données qui sont accessibles aujourd'hui via Internet, des données aussi sur la consommation des Français, sur le développement de telle ou telle enseigne, la recomposition des catégories socio-professionnelles, parce que dans ce paysage très kaléidoscopique, nous avions la conviction qu'il était illusoire de pouvoir en rendre compte en utilisant une seule focale. Et donc, vous savez, c'est un peu comme quand on éclaire un monument la nuit. Eh bien, il faut souvent plusieurs projecteurs situés à différents endroits stratégiques pour en restituer toute la complexité. Donc, c'est pour cela que nous avons eu cette volonté de nous engager dans cette démarche de croiser les sources et les regards, un peu aussi à la manière des historiens de l'école des Annales qui s'intéressaient beaucoup à la géographie, au territoire, notamment aux routes commerciales par exemple, mais également à l'implantation des marchés, des foires ou autres. Et on célèbre aujourd'hui le 3e anniversaire du début de la crise des gilets jaunes. Et cette crise des gilets jaunes, si on ne l'appréhende pas avec une grille de lecture territoriale, on passe en grande partie à côté de ce sujet. Donc on avait aussi la conviction que beaucoup des phénomènes qui se produisent aujourd'hui dans ce que nous avons appelé la France d'après, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, mais qui résulte...
Vraiment après, hein, parce que vous remontez quand même... C'est quoi? C'est les évolutions depuis les années 80,
qu'on appelait la grande métamorphose, et ce qui est sorti du cocon de la chrysalide, c'est la France d'après, celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc beaucoup de ces caractéristiques de cette France d'après doivent s'appréhender avec une focale géographique. Il y avait un livre qui a fait date à la fin du 19e siècle qui s'appelait Le Tour de France par deux enfants. Et donc, quelque part, c'est un peu le Tour de France de deux quadras, hein, qui sont nés dans les années 70, qui ont vu le pays changer et qu'on a eu à cœur de partager et de raconter à nos lecteurs.
Avec les outils d'aujourd'hui, Jean-Laurent Casselli, ça veut dire quoi? Vous êtes allé voir les pages Wikipédia des communes, par exemple?
On a fait ça, on a fait de ce qu'on appelle du big data ou de l'open data, c'est-à-dire qu'on est allé chercher, comme Jérôme a commencé à l'expliquer, des données qui étaient disponibles à tout un chacun, mais qui demandent quand même une certaine expertise, hein, pour être récoltées, exploitées. On l'a fait avec nos cartographes et complices Mathieu Garnier et Sylvain Manternac. Et si vous voulez, en parallèle de ce côté très très chiffré, très quantitatif, on a eu à cœur aussi de faire un livre de terrain. On a nos outils, c'est aussi le carnet de notes du journaliste, c'est aussi le téléphone pour prendre des photos, en fait, tout simplement.
Et les émissions de télé que vous regardez.
Les émissions de télé, les émissions de recherche de logement, d'immobilier, les stars des réseaux sociaux, les influenceurs, les influenceuses. On a vraiment fait feu de tout bois parce qu'on voulait raconter la France, les Frances, toutes les Frances, avec aussi toutes sortes de méthodes, les plus, j'irais, les plus sérieuses, les plus ardues, scientifiques, mais aussi les plus proches du terrain et de la réalité concrète des Français.
Alors effectivement, c'est très riche, je lisais, il y a des tas de sujets. Je voudrais qu'on s'arrête quand même un instant sur les territoires qui attirent aujourd'hui, Jérôme Fourquet. Est-ce qu'il y a un changement?
Oui, alors Jean-Laurent a parlé de cette carte Wikipédia. Donc on est, toutes les communes de France n'ont pas un office du tourisme, mais elles ont toutes une page Wikipédia. Et donc Mathieu Garnier, notre compère, est allé compiler toutes les requêtes qui ont été faites sur les 35 000 pages des communes de France, et il en a tiré une nouvelle hiérarchie, c'est-à-dire les communes qui font du clic, qui attirent, soit pour le tourisme, les vacances, soit pour aller s'y installer. Et donc on a vu se dessiner une nouvelle carte, une nouvelle hiérarchie de la désirabilité des territoires. Alors cette France qu'on a appelée triple A, celle qui brille, ce sont le cœur des grandes métropoles mondialisées, mais ce sont aussi tous les littoraux, les zones touristiques, les stations de sports d'hiver, les campagnes du sud de la France qui sont assez embellies et riantes. Et puis à l'autre extrémité, nous avons les vieux bassins industriel en crise, dans aujourd'hui quasiment chaque commune un peu de taille un peu importante, les quartiers difficiles, les quartiers sensibles, et puis entre ces deux extrémités, eh bien on a toute une palette possible et inimaginable, et Jean-Laurent introduit notamment la notion de marché de report, c'est-à-dire que quand on peut pas s'installer dans la commune qu'on vise parce que le prix de l'immobilier est trop cher, eh bien on va s'installer dans la commune d'à côté ou la commune qui est un peu plus loin, et on chasse à notre tour, sans vouloir forcément le faire, d'autres ménages qui vont s'installer un peu plus loin. Donc il y a un gigantesque mercato comme ça qui s'opère.
Sachant que l'immobilier est un critère essentiel d'installation dans notre pays, plus que jamais d'ailleurs. Hein,
tout à fait, et qui préoccupe énormément les Français, d'où le succès de toutes ces émissions sur recherche maison ou appartement, puisqu'on voit bien que c'est aujourd'hui une quête qui motive beaucoup les Français, et ce, encore davantage depuis la pandémie et le Covid.
Et on constate une chose, Jean-Laurent Casselli, c'est que les Français, ils bougent, hein, ils se déplacent. Peut-être pas autant que les Américains qui déménagent beaucoup, mais la tendance est là.
Oui, vous avez raison, on est rentré dans une société de la mobilité, une société de l'image. Ce qui veut dire qu'un certain nombre de gens, pas tous, hein, mais quand même une part substantielle des Français, ont le choix, en fait, du lieu dans lequel ils vont vivre. Et en fait, on a vu ça pendant le Covid, hein, pendant les confinements, un certain nombre de gens qui pouvaient télétravailler ont pris la carte de France, en fait, et ou ont ouvert, en fait, leurs réseaux sociaux pour voir quels étaient les photos des lieux les plus agréables. Et ils se sont dit, voilà, on va peut-être déménager en bord de mer, sur la façade atlantique, on va peut-être aller à la campagne, on va peut-être s'éloigner un petit peu de la grande ville pour avoir un jardin et avoir un peu plus de place. Et donc, si vous voulez, pour un certain nombre de gens, aujourd'hui, le territoire se fait à la carte, ce qui a des implications sur le marché immobilier, c'est des tensions immobilières et aussi des implications politiques. On n'en parle pas encore beaucoup dans la campagne présidentielle, mais on a vu pendant les régionales que le sujet était tendu. Par exemple, en Bretagne, certains candidats proposaient un statut local, en fait, une sorte de préférence locale pour l'achat du logement.
Il y a un débat au Pays Basque aussi.
Voilà, exactement. On voit ce statut de résident, on voit ce débat monter dans différents courants politiques. C'est assez intéressant à suivre.
Alors, on va revenir évidemment sur différents points au cours de cette émission, mais on va faire un détour par le Standard. On va aller à Lille. C'est Jerry qui est au bout du fil. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne d'Inter.
Ah ben, je tenais à m'exprimer à propos de changement parce que j'étais habitué à deux extrêmes, c'est tout grand, c'est les États-Unis et la Grande-Bretagne où c'est tout petit. Ce que je vois de la France, qui a 10 fois plus de ronds-points que dans tous les États-Unis, il y a les endroits où on s'installe et il y a aussi un autre problème, c'est comment on peut circuler en France. Parce que la liberté de circuler, elle a été considérablement gâchée par des zozos. Vous êtes le seul pays au monde où on fait du tout-terrain sur du macadam, avec des ralentisseurs partout. Donc ça provoque des gens qui achètent des SUV et des 4x4. Aux États-Unis, vous trouvez des ronds-points, des ralentisseurs parce que vous avez des gens qui achètent des 4x4 et qui font moins attention. Donc on met des ralentisseurs brutaux à certains endroits. Et ici, ben, c'est, vous voyez, 10 fois plus de ronds-points qu'aux États-Unis, des priorités à droite sans visibilité. Je fais de l'écologie tous les jours, je suis tous les jours à vélo, et les moteurs, je sais comment on les règle, et ce qui consomme vraiment, et surtout ce qui pollue vraiment.
Merci. Jerry, je vous arrête parce que on va pas faire un téléphone sonne forcément sur la circulation, mais on va évoquer la question des transports, des déplacements et notamment la question des ronds-points. Jérôme Fourquet, caractéristique essentielle. Hein.
Oui, alors les ronds-points, dans la terminologie urbanistique, ils s'appellent ronds-points anglais, je crois. Donc, mais on en a plus aujourd'hui qu'en Grande-Bretagne. Donc l'élève a dépassé le maître. Pour revenir sur ce que disait Jerry, on voit bien aussi que le rapport à la voiture
est un marqueur
qui est très important et qui est un marqueur qui est en train de, comme on dirait en marketing, de segmenter les populations, puisque on voit typiquement ici à Paris que la proportion de possesseurs d'automobiles est tombée à un tiers seulement de la population parisienne, alors que 85% des Français sont motorisés, disposent d'une automobile. Ce fossé s'est considérablement accru en l'espace d'une trentaine d'années. Il y a assez peu de temps, sur une chaîne de télévision, on a repassé le film Ciao Pantin, dans lequel Coluche, le personnage central de ce film, est pompiste à Paris. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on retournait le film Ciao Pantin, mais il reste 100 stations essence à Paris, et donc ce n'est plus un sujet pour les Parisiens, mais aussi Paris, c'est là où beaucoup de nos élites dirigeantes résident. Et donc, on voit bien, avec la première question qui vient dans ce téléphone sonne, que la question des déplacements, du rapport à l'automobile, le contrôle technique, les pneus neige obligatoires, etc., le prix de l'essence, tout ça est absolument central pour beaucoup de Français et devient un sujet marginal pour une partie de la population qui
des centres-villes,
des grandes métropoles.
Des grandes métropoles. Sur la question du rond-point, il y a beaucoup de choses dans votre livre qui renvoient au rond-point, parce qu'il y a des commerces de rond-point. Vous parlez de la boulangerie des ronds-points, et ça, c'est évidemment lié à un type d'habitat et au fait que ce sont les hypermarchés situés loin des centres qui ont pris le pouvoir d'une certaine façon, Jean-Laurent Casselli.
Tout à fait. Le rond-point est vraiment la manifestation la plus visible de cet étalement urbain qui dure depuis plusieurs décennies. Quand la crise des gilets jaunes survient à l'hiver 2018-2019, on fait mine de découvrir hein, cette révolte des ronds-points. En réalité, ce que ça dit à ce moment-là, le fait que les gilets jaunes décident de se retrouver sur les ronds-points, ça dit que leurs lieux de vie se sont décalés des centres-villes ou des centres-bourgs ou des centres villageois au profit de ces zones commerciales, avec d'abord des hypermarchés, des supermarchés, puis des petites galeries attenantes avec tout un tas de boutiques franchisées, puis des magasins de bricolage, des magasins de sport, puis encore dans les années 2000-2010, ce qu'on appelle des boulangeries de rond-point, effectivement ces grandes boulangeries de périphérie qui ont calqué en fait les méthodes de la grande distribution avec un parking, des prix assez agressifs. Et en fait, si vous voulez, le rond-point aujourd'hui dans une partie de la France, c'est en quelque sorte la place, la nouvelle place de village. Et il était intéressant de voir que quelques années avant, Nuit Debout avait été un mouvement de la jeunesse diplômée urbaine parisienne, place de la République, et qu'en fait, une partie de la population française avait sa propre place, qui était une place quelque part faite par l'automobile et par l'étalement urbain, qui était ce fameux rond-point.
Voilà, et vous rappelez au passage le boom des hypermarchés, c'est complètement spectaculaire. On va prendre, Alexandre, on le prendra juste après, mais c'est d'abord Nicolas qui est à Bordeaux. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir, merci de me prendre en ligne.
Mais je vous en prie.
Je veux d'abord féliciter Jérôme Fourquet pour l'archipel français que j'ai un livre. Oui, je n'ai pas été le seul, et je suis très impatient de lire ce nouveau livre.
Je voulais faire... Vous ne serez pas déçu, hein, La France sous nos yeux, je rappelle le titre aux éditions du Seuil. Hein.
Alors, La France sous nos yeux est de plus en plus belle, les paysages sont magnifiques, quand on traverse la France, on voit de plus en plus de beaux paysages, de magnifiques paysages, mais je suis troublé par ce paradoxe du fait que notre population agricole, je ne suis pas du tout un agriculteur, je vis en ville depuis longtemps, je suis à Bordeaux, notre population agricole n'a pas les moyens de vivre dans des paysages qui sont magnifiques, elle devrait mieux produire, elle produit bien, elle devrait encore mieux produire et surtout vivre de manière décente de son travail, ce qui n'est pas le cas. Et pour moi, c'est un paradoxe français qui se traduit dans les paysages sont magnifiques, les agriculteurs produisent de manière magnifique et ils sont beaucoup d'entre eux sont pauvres, quoi. C'est pas acceptable.
Merci beaucoup pour cette remarque très pertinente, Nicolas. Jérôme Fourquet, oui, vous avez tout un chapitre, évidemment, sur le monde agricole.
Oui, alors on pourrait rajouter un autre paradoxe, celui qu'ils sont de moins en moins nombreux, ces agriculteurs. Donc il y a des terres agricoles qui sont encore magnifiques, qui façonnent encore en partie nos paysages, parce que, comme l'a dit Jean-Laurent, la grande distribution, les zones commerciales, l'étalement urbain participent aussi beaucoup à la recomposition territoriale de la France. Ce que Télérama, il y a 10 ans maintenant, avait appelé la France moche. Et donc notre auditeur qui est dans la région bordelaise fait référence à la France des cartes postales, celle des paysages ruraux, mais il y a toute cette France périurbaine. Et donc si on revient à l'agriculture, ce qu'on montre dans le livre, c'est que non seulement l'industrie s'est effondrée en France, mais un autre secteur qui était un secteur éminemment productif, celui de l'agriculture, a connu le plus vaste plan social silencieux de notre histoire, puisque entre les années 90 et aujourd'hui, les effectifs des agriculteurs, des paysans, sont passés d'un million à seulement 400 000 personnes. Donc on a perdu les deux tiers de l'effectif en 25 ou 30 ans. À peu près le même trend, même tendance à frapper leurs camarades pêcheurs, dont on parle beaucoup en ce moment dans les négociations post-Brexit, qui ont aussi vu leurs effectifs être totalement laminés. Et donc, on est passé aujourd'hui à une économie de la consommation, du tourisme et des loisirs, et tous les anciens productifs aujourd'hui sont réduits à la portion congrue.
C'est vrai que vous faites il y a toute une liste de plans sociaux, c'est impressionnant ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années. Et vous le dites, ça a des conséquences sur le lien social, Jean-Laurent Casselli.
Oui, tout à fait. Ce qu'on essaie de montrer, c'est, si vous voulez, comment la France populaire a évolué pendant ces années de transition, de cette fameuse métamorphose. Si vous vous penchez sur la structure en fait de l'emploi en France, vous vous rendez compte qu'il y a à peu près autant de catégories populaires que dans les années 80, ce que l'INSEE appelle les employés ouvriers. Hein, c'est à peu près 50% de la population active. Or, quand vous plongez dans ce qu'il y a derrière ces statistiques, un petit peu abstraites, vous rendez compte que la structure en fait de l'emploi a pas mal évolué dans la mesure où les ouvriers d'usine sont de moins en moins nombreux et qu'ils ont été compensés quelque part ou remplacés par des gens qui travaillent dans le tertiaire, qui sont cadres supérieurs, mais aussi par un nouveau type d'ouvrier qui est l'ouvrier de la logistique qui ne produit pas des marchandises mais qui va les acheminer vers les bassins de consommation, vers les fameux supermarchés dont on parlait, vers le consommateur dans le cas de la livraison du e-commerce, du click and collect hein, et tous ces termes un peu de jargon qui sont en train d'apparaître avec la transition numérique du commerce. Et donc en fait c'est un peu comme si le cariste, qui est cet ouvrier hein, qui manipule un chariot élévateur dans les entrepôts pour déplacer des palettes, ou le chauffeur routier ou le livreur avait remplacé l'ouvrier d'usine.
Le cariste, le chauffeur livreur, personnage emblématique des Gilets jaunes, Jérôme Fourquet.
Oui, alors c'était typiquement, vous vous souvenez, c'est avec un Fenwick que les portes du ministère de M. Griveaux avaient été enfoncées. C'est avec les palettes qui sont la brique de base de la manutention que les Gilets jaunes avaient construit leur fameuse cabane, parfois leur barricade. Et le cariste a constitué une des figures emblématiques de ce peuple des ronds-points, avec son homologue féminine, qui était souvent l'aide à domicile, ou l'aide-soignante, ou le personnel féminin, puisque ces personnels sont à 90% féminins, des EHPAD, ce qu'on a aussi appelé, nous, le nouveau prolétariat de la silver economy. On est passé, avec le vieillissement de la population, de à peu près 2500 à plus de 7000 EHPAD en France. Et il faut de la main-d'œuvre pour faire tourner ces établissements, souvent des manœuvres assez peu rémunérées, avec des tâches qui sont difficiles. Et par exemple, Ingrid Levavasseur, était aide-soignante, hein, c'est une de ces égéries du mouvement des Gilets jaunes. Et quand on a un chapitre qui s'interroge, donc que reste-t-il quand l'usine a fermé? Eh bien, quand on n'est pas au bord de mer ou dans une zone avec une météo clémente, souvent c'est la grande surface du coin ou l'EHPAD ou l'hôpital qui sont devenus les principaux employeurs du secteur.
Effectivement. On va retrouver, comme promis, Alexandre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Paris, Alexandre.
Exactement.
Est-ce que la France a changé pour vous, Alexandre? La France a-t-elle changé pour vous?
oui, elle a évolué dans la mesure où 8 Français sur 10 se déclarent heureux, ce qui est 5% de plus qu'en 2018. À cela, il y a le déconfinement qui a eu lieu, il y a plus, on a retrouvé le lien social, et puis comme le disait Voltaire, j'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour la santé.
Bah écoutez, merci pour ces quelques minutes de bonheur. Ça fait jamais de mal. Allez, Jérôme Fourquet, c'est un sondage, c'est pas IFOP, hein, c'est un autre institut qui nous a dit cette semaine qu'effectivement 80% des Français étaient heureux. Vos chiffres recoupent à peu près ça.
Oui, alors là aussi, il y a un paradoxe, c'est-à-dire ça dépend comment on pose la question, c'est comme toujours. C'est-à-dire que si on les interroge sur leur degré d'optimisme et de... oui, le sentiment de satisfaction en tant que citoyen appartenant à une nation. Là, on est en général très très mal classé dans les classements internationaux. La France a broie du noir depuis très longtemps. Et paradoxe, quand on interroge les Français sur leur situation personnelle, leur bonheur individuel ou familial, on a les chiffres que vous indiquiez avec ce que Vincent Cockbert a appelé le développement d'une civilisation du cocon autour de la maison individuelle. Vous avez parlé dans votre lancement du barbecue, de tous ces rituels de la vie familiale et collective qui rendent les Français heureux. Mais ces Français surinvestissent peut-être aussi cette sphère individuelle parce qu'il y a un déficit de projection, de capacité à embarquer cette population dans un grand récit national. Et on avait dit d'une manière un peu provocatrice et un peu humoristique, mais je pense qu'on n'était pas forcément très loin de la réalité, que lors des dernières élections régionales où plus de 65% des Français n'étaient pas allés voter, l'appel du barbecue avait été plus fort que l'appel de l'isoloir.
Alors, puisque vous nous parlez des formes de loisirs, vous, il y a tout un chapitre là aussi dans votre livre là-dessus. Vous parlez des parcs d'attractions, vous parlez des parcs à thème. Jean-Laurent Casselli, ça c'est quelque chose effectivement qui a marqué les dernières années. Ce sont devenues des institutions.
Oui, d'ailleurs, ce qui est assez ironique, c'est que souvent ces parcs d'attractions ont été bâtis sur les ruines en fait d'activités industrielles qui ont disparu. Et il est assez ironique de penser que c'est ce qui était vu comme vraiment un secteur un petit peu à part ou infinitésimal est devenu une vraie économie. On parle évidemment de Disneyland Paris, anciennement Euro Disney, qui a été fondé, inauguré en 1992, l'année où l'usine Renault-Billancourt fermé. Voilà, la transition, encore une fois, est assez symbolique. Aujourd'hui, Disneyland Paris, c'est un des premiers sites, c'est le premier site touristique de France et même d'Europe, et c'est également le premier employeur monosite de France. Voilà, donc ça veut dire que derrière les zones commerciales, les centres commerciaux dont on a parlé, derrière les parcs d'attractions, derrière le loisir et le tourisme, vous avez toute une économie.
Et c'est même un passage obligé, Jérôme Fourquet, Disneyland Paris. Ça fait partie du baptême.
Du baptême de la France d'après. Quand on interroge les Français de moins de 35 ans, donc qui sont nés à peu de choses près au moment de l'ouverture de Disney ou après, quel que soit leur lieu de résidence en France, 75% d'entre eux nous déclarent être au moins allés une fois dans leur vie chez Disney. Ils ont accompli le pèlerinage. Et à l'heure où on parle beaucoup d'identité nationale, l'identité, ce sont des valeurs, des expériences communes, des lieux symboliques. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, dans cette France d'après, eh bien, Disney fait partie de notre imaginaire ou de notre panthéon national. De la même manière, on voit le basculement des référentiels dans un département comme le Loir-et-Cher. Aujourd'hui, le zooparc de Beauval, avec ses deux mascottes emblématiques qui sont le couple de pandas, prêté par la Chine il y a quelques années.
Que Kylian Mbappé vient d'aller baptiser.
Alors les petits sont été baptisés, puisque Macron est marraine des parents. Le zoo de Beauval, depuis quelques années, depuis l'arrivée des pandas, fait beaucoup plus d'entrées que Chambord, le château de Chambord, qui historiquement était la locomotive touristique et la vitrine de ce beau département. Donc on voit comment le référentiel culturel est en train de muter, mais à une vitesse extrêmement rapide et assez stupéfiante.
Et sur les loisirs, sur la culture, vous soulignez par exemple l'importance des festivals de musique. C'est une réalité. Bon, ça c'est vrai qu'on l'a tous noté, mais vous au moins vous le pointez, Jean-Laurent Casselli.
Oui, parce que encore une fois, si vous voulez, c'est des sujets qui, enfin, la plupart des jeunes Français sont allés au moins une fois dans leur vie dans un festival ou à Euro Disney. Mais en fait, on a voulu pointer à quel point ces activités sont devenues vraiment structurantes. On parle aussi dans un chapitre sur l'américanisation de la danse country, du succès incroyable de la country dans une partie des catégories populaires françaises. On avait d'ailleurs observé quelques pas de country sur les ronds-points à l'époque des gilets jaunes. Et c'est vraiment frappant de se rendre compte à quel point ces folklores importants qui sont issus de la globalisation, se sont acclimatés à nos territoires, à nos coutumes, un petit peu comme si aller dans un festival de rock, d'électro, danser la country, ça faisait encore une fois partie, comme l'a dit Jérôme, de cette identité nationale de la France d'après. C'est une possibilité parmi d'autres, de même que le sushi ou le burger est une possibilité parmi un menu qui comporte encore de la blanquette de veau.
Vous êtes d'accord, Jean Fourquet ?
Oui, tout à fait. Et là aussi, on voit, par exemple, en Bretagne, c'est la région qui compte le plus de festivals de rock. On a refait la chronologie de leur date de création. Tout ça date des années 80-90. Ils sont multipliés avec un festival emblématique qui est celui des Vieilles Charrues en Centre-Bretagne, mais qui est aussi, pour cette région du Centre-Bretagne, assez peu densément peuplée, où il y a des difficultés économiques, aujourd'hui une véritable locomotive. Et de la même manière que les jeunes Bretons, il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'années, quand ils étaient catholiques, faisaient le trobreille, c'est-à-dire le tour des pardons bretons, et bien aujourd'hui, leurs enfants ou leurs petits-enfants font le tour des festivals. Et ouais, donc,
la nouvelle religion du moment.
La nouvelle religion
de la France d'après.
Voilà.
On va partir à Nîmes, retrouver Jackie. Bonsoir Jackie.
Bonsoir Claire Sabajon, bonsoir France Inter, les invités.
Bonsoir à vous.
Oui, d'abord, bravo, merci pour vos émissions, notamment du vendredi soir. Les invités, j'ai écouté tout à l'heure André Grimaldi, le professeur de l'hôpital public. C'était vraiment un régal d'entendre des vérités.
Ça me fait plaisir que ça vous ait plu. Merci beaucoup, Jackie.
Oui, merci. Et toutes vos émissions le vendredi, vous avez le temps avec les invités et je trouve que c'est vraiment...
C'est ma fête aujourd'hui, allez. Construit. Merci beaucoup.
Alors, voilà. Globalement, sur ce qui vient d'être dit et le sujet de ce soir, est-ce qu'on n'a pas privilégié une société au bénéfice des multinationales? Par exemple, les nouvelles technologies devaient rassembler les gens. On a entendu cet après-midi une émission encore sur France Inter sur les nouvelles technologies qui devaient rassembler les gens. Et on en a fait des choses qui sont des monstres qui font de l'argent. Est-ce que la santé est véritablement meilleure aujourd'hui qu'il y a 40 ans? Est-ce qu'on n'a pas développé cette société globalement au bénéfice des multinationales qui font de plus en plus de profits? Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus nombreux. Les services publics, la santé, l'éducation, tout divise un petit peu cette société. Et est-ce que cette croissance n'est pas faite plutôt au bénéfice d'un modèle de société hyper productiviste et qui la détruit, plutôt que pour le bien-être et le bien-vivre des gens, de la population?
Vaste question, il va falloir du temps pour vous répondre, Jackie. Mais en tout cas, peut-être sur les multinationales et sur les nouveaux patrons de l'industrie aussi. Jérôme Fourquet, c'est quelque chose que vous évoquez dans votre livre.
Oui, alors, Jackie a parlé à la fin d'une société hyper productive. Au contraire, nous, on pense que la société
elle
française
produit, plus grand
elle produit de moins en moins. Elle consomme de plus en plus, donc peut-être d'où l'endettement record du pays et aussi des ménages.
Société de flux, hein, pas de stock. Hein.
Voilà, société de flux, de consommation. Sur le rôle de ces multinationales, bien évidemment qu'il y a des acteurs économiques qui ont tiré leur épingle du jeu, mais encore une fois, attention, il n'y a pas de... nous, on n'est pas dans une grille de lecture un peu machiavélique ou complotiste en disant certains ont tiré les ficelles. On a une société qui s'est très fortement acclimatée et qui a adopté ce modèle. C'est-à-dire qu'on n'a forcé personne à aller manger chez McDo, partir en pèlerinage chez Disney ou aller à un multiplex ou un laser game de périphérie. Ce qu'on voit aussi, c'est que effectivement, on s'est intéressé au classement du magazine Challenge qui fait le palmarès chaque année des 500 plus grandes fortunes de France et on a comparé cette composition de ce public de l'aristocratie financière française à 20 ans d'écart. Et ce qu'on constate, c'est que la part des industriels est passée d'un tiers en 1998 à seulement 11% aujourd'hui. au profit notamment des activités dites holding, donc des placements financiers, hôtellerie de luxe et également immobilier. Et donc on voit que nos élites dirigeantes, enfin en tout cas économiques, ont elles aussi participé à la désindustrialisation du pays en optant pour d'autres activités économiques qui sont des activités qui s'insèrent très bien dans ce qu'on a essayé de décrire, c'est-à-dire le tourisme, les loisirs, la consommation.
Et vous vous intéressez aussi à la question des classes moyennes. Hein. C'est une partie très importante de votre ouvrage, de savoir effectivement si ces classes moyennes sont plus importantes qu'avant ou si une partie a été tirée vers le haut et l'autre partie vers le bas. Jean-Laurent Casselli, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet?
Oui, pendant les 30 Glorieuses, le format star, c'était l'hypermarché, hein, dont on annonce régulièrement la crise. Pourquoi? Parce que c'était vraiment le modèle de ce qu'on appelait le tout sous le même toit. La plupart des Français s'y rendaient, alors ne remplissaient pas le même caddie, mais en tout cas se rendaient dans le même lieu. Et si vous voulez, la spécificité, la complexité en fait des gammes était relativement limitée. On est arrivé dans une société dans laquelle les gens n'ont plus les mêmes envies, divergent de plus en plus. Et cette polarisation, on la voit en politique, dans les modes de vie, mais on la voit aussi dans la consommation. Concrètement, on a vu arriver par le bas le hard discount dans les années 80. Avec Lidl, Aldi et compagnie, pour répondre à une partie de la classe moyenne qui décrochait, hein, qui n'avait plus les moyens d'aller dans les supermarchés, les hypermarchés classiques, et qui voulait aussi continuer à consommer, hein, c'est-à-dire continuer à atteindre ce seuil de moyennisation qui est monté année après année. Et à l'autre bout du spectre, vers le haut, on a vu arriver, par exemple, le retour des épiceries paysannes, des formats bio, des nouvelles boulangeries très qualitatives, avec aussi une hausse de la qualité, donc du prix de revient pour le consommateur. Et notre Français moyen et son panier des années 70, il est un peu perdu dans tout ça. Et donc on documente à partir de nombreux exemples cet éclatement effectivement de la classe moyenne.
Et vous montrez bien que certains peuvent commander chez Amazon et d'autres au Bon Coin, et c'est pas forcément les mêmes. Je voudrais qu'on prenne Laurence qui est en Ardèche. Bonsoir Laurence.
Bonsoir France Inter.
On vous écoute Laurence. Ma petite fiche me dit que vous avez passé du temps à l'étranger.
Voilà, et en rentrant, ça a été vraiment très flagrant. Deux choses, alors forcément il m'a fallu un an ou deux pour m'en apercevoir, mais auparavant, il me semblait que on donnait de l'importance aux connaissances acquises. Et maintenant, il faut prouver, non pas en faisant, mais en montrant une formation, un diplôme, un certificat. Il faut rajouter des diplômes par-dessus le premier diplôme. Ce qu'on a fait auparavant n'a plus d'importance. Il faut des formations. Voilà, il faut le cachet du gouvernement, d'une école, pour prouver qu'on est capable de... Ça m'a vraiment fait quelque chose de m'apercevoir de ça. Et la deuxième chose qui n'a rien à voir, c'est la baisse de la qualité des produits dits français, mais parallèlement maintenant, vu qu'ils sont faits ailleurs, la qualité n'est plus là. Le prix reste élevé par rapport à au fait que c'est français, mais la qualité n'est vraiment plus là.
Merci Laurence. Deux questions très importantes, très différentes. On va commencer peut-être par le diplôme. Tiens, Jérôme Fourquet, c'est quelque chose d'important dont vous parlez.
Oui, alors il y a une révolution silencieuse qui s'est produite depuis les années 80, qui a été engagée suite à une décision politique de amener 80% d'une classe d'âge au bac. Et tout ça aboutit à ce que Emmanuel Todd appelle une nouvelle stratification éducative. Puisqu'on rappelle que quand cette décision est prise à la fin des années 80, il n'y a qu'un tiers d'une classe d'âge qui va au bac. Et donc aujourd'hui, les classes sociales, les catégories sociales se définissent dans l'espace social de plus en plus en fonction du niveau de diplôme qui a été acquis. Et votre auditrice en rend très bien compte. Alors c'est vrai dans le privé où pour postuler à tel ou tel poste, il va falloir montrer son CV. C'est vrai aussi dans le public, avec des concours, catégorie A, catégorie B, catégorie C, qui sont ouverts en fonction d'un certain niveau de diplôme. Et on a analysé en disant que, sans doute, la frontière qui n'est pas très claire, qui sépare les catégories populaires de la classe moyenne, eh bien, c'est le niveau Bac plus 2. Et on raconte aussi comment, eh bien, avec cette massification de l'accès au bac, on a déployé partout sur le territoire des centaines de départements d'IUT ou de BTS pour fabriquer dans ces classes d'âge des effectifs qui allaient occuper ces postes aujourd'hui. Et encore une fois, le diplôme aujourd'hui est de plus en plus structurant dans les carrières et dans le positionnement qu'on occupe dans la société.
Donc elle a parfaitement raison, Laurence, quand elle dit ça. Sur la question des produits, tiens, Jean Casselli, un important clivage aussi.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, la France produit encore de la qualité. Le problème, c'est peut-être qu'elle produit que ça. La question du Made in France est très très à la mode. Hein. Il y a un salon qui s'est tenu récemment. Plusieurs candidats à la présidentielle en parlent en bien de ce retour de la production. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, c'est vraiment un retour à la production par la niche et par le haut de gamme. Hein. Pendant la crise du Covid, on s'est rendu compte que ces entreprises du textile qui avaient relocalisé une partie de leur production avaient fait des masques. Produit des masques, ça avait évidemment été symboliquement très très positif, mais c'est quand même les masques massivement arrivés par avion de Chine qui ont permis que tout le monde en ait. Donc la question, c'est le Made in France, oui, très bien, mais pour tout le monde, est-ce qu'on peut faire voilà des jeans pour tout le monde, des slips pour tout le monde, voilà, pour ne pas citer une marque très connue de Made in France, ou est-ce que ça reste du haut de gamme? Ça va être la question pour les années à venir.
Ça va être effectivement la question, et vous faites bien la distinction. Par exemple, les burgers, hein, il y a le burger bas de gamme et puis il y a le burger super chic. Toutes ces différences qu'on trouve dans votre livre, on pourrait parler alimentation. J'ai découvert que l'huile d'olive gagnait du terrain, y compris dans la région nantaise, qui l'eût cru.
Voilà.
C'est assez incroyable. Je voudrais vous citer Richard, qui veut pas qu'on le rappelle, mais qui a tout de même laissé un message. Il est là. Ah, il est là. Bon, Richard, bonsoir. Vous avez pas beaucoup de temps, mais vous allez nous dire le message que vous vouliez faire passer ce soir.
Oui, je vais essayer d'être concis. Je suis né dans les années 50. J'habite Toulouse, j'ai vécu sur Paris pendant pas mal d'années, j'avais des entreprises, j'étais dans le privé. Et j'ai toujours eu de moi, en tant qu'enfant, de ce que j'apprenais à l'école, de ce que je voyais de mes parents, de ce que je regardais de la société, une société et un pays, surtout le pays, la France, qui est où les gens en face, le peuple, écoutait, regardait et était capable de réagir. Aujourd'hui, ce qui me surprend le plus, c'est que je me sens de moins en moins, c'est très con ce que je vais vous dire, français, mais parce que
si je peux me permettre.
Pardon ?
Faites un petit peu vite, s'il vous plaît, ça va finir.
Alors, je vais aller beaucoup plus vite. Je trouve qu'aujourd'hui, notre peuple s'est complètement endormi. Et donc, la France est devenue comme tous les autres pays. Nous sommes à la merci de ceux qui dirigent. Mais je le regrette vraiment, vraiment.
Merci, Richard, pour ce petit message. Jérôme Fourquet, allez, le politologue.
Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, une abstention massive avec, aujourd'hui, un désinvestissement civique et politique d'une part croissante de nos concitoyens, notamment dans la jeunesse. On rappelle qu'aux dernières élections régionales, 85% des moins de 35 ans ne sont pas allés voter. Sans doute, ils... Ou alors en tout cas, quand ils s'expriment, c'était il y a 3 ans sur les ronds-points, et pour rassurer Richard, ils sont encore capables, parfois, de se faire entendre.
De se faire entendre, même si c'est un peu dans le désordre. Un grand merci, Jérôme Fourquet.
Merci à vous.
Un grand merci, Jean-Laurent Casselli. C'est une mine d'informations, la France sous nos yeux. Aux éditions du Seuil, juste après les infos de 20h, leur philo. Bonsoir Patricia Martin.
Bonsoir.
Quel programme ce soir?
On va parler de Nietzsche avec Barbara Stiegler.
Eh ben, vaste programme, merci et à tout à l'heure.